Bonjour Catherine Masson.
Bonjour. Donc,
voilà, nous sommes dans l'émission Pauline Jaricot et aujourd'hui vous allez nous parler de l'œuvre des ouvriers.
Oui, je vais vous parler de l'œuvre et des ouvriers. Et en fait, le sujet d'aujourd'hui, en fait, vous allez assez vite le comprendre, c'est à la fois une belle histoire, un beau projet, et c'est en même temps l'histoire d'une catastrophe. Et donc, nous allons découvrir cette catastrophe et nous verrons que Pauline à vue humaine n'en est pas sortie, même si à vue chrétienne et dans la foi, elle a traversé cette épreuve, elle l'a traversée, on va dire. Alors, Pauline, on a fait connaissance avec elle hein, depuis plusieurs mois, cette jeune femme lyonnaise d'un milieu aisé, un milieu de la soie lyonnais, qui est née donc en 1799, à la fin du XVIIIe siècle, dans ce beau milieu familial, aisé, aimant, dans une famille nombreuse, elle est la dernière de sept enfants, avec une vie facile, mais une vie qui, on s'en souvient, ne la comble pas jusqu'à ce moment important de ses 17 ans qu'elle appelle sa conversion et où elle rencontre le Dieu de Jésus-Christ qui la brûle hein, au fond d'elle-même et elle n'a plus à ce moment-là qu'un désir qui est de communiquer cette flamme intérieure. Et donc, on a vu qu'elle le faisait avec beaucoup d'imagination, de créativité, de foi, et on l'a découverte donc à travers ses grandes œuvres dont on a parlé, la propagation de la foi et le rosaire vivant, des œuvres qui durent toujours aujourd'hui. On a découvert aussi, c'était l'objet, je crois, de la seconde émission, on a découvert aussi son souci des plus pauvres. On a vu comment, toute jeune, elle perçoit avec une lucidité assez rare, elle perçoit la misère, la détresse de tous ceux qui l'entourent, que ce soit dans son quartier à Lyon ou que ce soit dans l'usine de soie de son beau-frère, par exemple, dans la Drôme. Et on a vu comment elle a cherché déjà à les aider et mener des actions assez originales, entre autres avec, rappelez-vous, ces réparatrices, c'est comme ça qu'elle les appelle, ces jeunes filles. Alors, ça peut être des jeunes filles riches de son milieu, mais en général, elles n'ont pas beaucoup suivi Pauline. C'est plutôt souvent des jeunes filles pauvres qu'elle veut aider, et pour les aider, elle les embauche. Et elle les embauche dans ses œuvres, et on a déjà vu comment elle avait été au secours de toutes les misères qu'elle pouvait aider avec ces jeunes filles, et comment elle le faisait dans un contexte où il y avait effectivement beaucoup de misère et où on commençait à prendre conscience de cette misère. Alors, il y avait beaucoup d'œuvres charitables et Pauline participait de ces œuvres charitables. Et il y avait quelques initiatives un petit peu innovantes. Et il faut dire qu'en ce domaine, eh bien, Pauline va se montrer pionnière. Pionnière avec non seulement le souci d'aller au secours des misères, mais avec le souci de plus de justice et aussi le souci de permettre aux ouvriers qu'elle veut aider, non pas de les aider de haut, par-dessus, en surplomb, hein, mais de se prendre en charge eux-mêmes. C'est un peu la nouveauté de ce qu'elle va proposer. Je rappelle que à l'époque, le syndicalisme, ça n'existe pas, l'autonomie du cobaye ouvrier, etc., tout ça, ça n'existe pas. Alors, c'est vrai, vous allez vous en rendre compte, à certains moments, on est un petit peu étonné par l'action de Pauline, et puis on serait tenté de parler de paternalisme, mais en histoire, vous le savez, il ne faut jamais faire d'anachronisme. Pauline, non seulement elle est de son temps, mais en fait, on va se rendre compte qu'elle est en avance sur son temps, avec une prise de conscience assez vive et pionnière de tous ces problèmes. Et en plus, ce qui est original, parce que c'est vrai qu'il y a déjà la naissance des courants socialistes, en fait, etc. à l'époque, ce qui est original dans l'œuvre de Pauline, c'est que sur les situations dramatiques qu'elle découvre, eh bien, elle projette la lumière de l'Évangile et elle dit « Mais comment est-il possible d'aimer Jésus sans aimer son prochain ?» Et comment est-il possible d'aimer Jésus sans chercher avec ardeur quelques remèdes à tous ces maux que l'on rencontre? Donc voilà le souci de Pauline hein, dès sa jeunesse, quand elle a une vingtaine, une trentaine d'années. Mais il ne suffit pas de se dire que l'on veut aller au secours des misères que l'on rencontre, la question c'est comment. Et vous vous souvenez donc que Pauline a beaucoup d'imagination. Et l'une des premières originalités de son action, c'est d'être avec. Elle est avec ceux qu'elle veut aider. On l'a vu avec les ouvrières qu'elle embauche dans ses œuvres. Elle est avec les ouvriers de son quartier. Il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe, par exemple, dans les années 1830 à Lyon. Il y a plusieurs insurrections ouvrières, les canuts, hein, les ouvriers de la soie de Lyon qui se révoltent. Et Pauline, qui est une fille de patron, mais qui est, rappelez-vous, au moment de sa conversion, elle quitte ses habits de soie et elle s'habille comme les ouvriers. Pauline est dans les rues avec les ouvriers, hein, qui sont en révolte. Alors, son combat, il est le sien, il n'est pas dans la rue, elle n'est pas comme une émeutière, mais elle distribue des médailles, par exemple, elle distribue des chapelets, et surtout, elle est avec. Hein, elle fait ce qu'elle peut pour les gens, elle donne à manger, en fait, etc. Vous voyez, elle est dans la rue avec les ouvriers. Et ce faisant, en étant avec, eh bien, elle apprend à les connaître et elle apprend à découvrir leur vie. Et à partir de ce qu'elle découvre, elle va échafauder des plans. Je vais vous lire ici textuellement une citation de Pauline, quelque chose qu'elle a écrit en 1833. Donc, vous voyez, elle est née en 99, elle a 34 ans et elle a cette réflexion qui nous dit bien quel est le combat qu'elle mène. La citation est un petit peu longue, je vous la lis. « Il me semble aujourd'hui avoir acquis la certitude qu'il faudrait d'abord rendre à l'ouvrier sa dignité d'homme en l'arrachant à l'esclavage d'un travail sans relâche. » Sa dignité de père, en lui faisant goûter les douceurs et les charmes de la famille. Sa dignité de chrétien, en lui procurant, avec les joies du foyer domestique, les consolations et les espérances de la religion. En un mot, conclut-elle, je voudrais qu'on rendît l'époux à l'épouse, le père à l'enfant, et Dieu à l'homme dont il est le bonheur et la fin. C'est tout le programme de Pauline. C'est son programme qui nous dit en creux la situation ouvrière. Elle nous parle des difficultés du travail, des difficultés de la vie familiale, des difficultés de pratiquer sa religion, etc. Donc, elle nous fait découvrir en creux cette situation et elle cherche quelles solutions elle pourrait apporter. Et pour cela, selon sa méthode, toujours la même, elle réfléchit beaucoup et elle prie. Et ça, la citation que je vous ai donnée, elle est de 1833. On voit Pauline qui réfléchit pendant une bonne dizaine d'années sans trouver comment elle peut faire autrement que ce qu'elle fait déjà avec ses réparatrices, ses amis, etc. Elle réfléchit, elle prie pendant ces dizaines d'années, cette dizaine d'années, je vous rappelle, des belles années pour elle. Elle a retrouvé la santé en 1835, un peu miraculeusement, en allant prier sur les reliques de Sainte Philomène à Mugnano. Elle a la propagation de la foi, elle s'en occupe plus trop, mais elle continue à avoir des liens avec des missionnaires, etc. La maison de Lorette qu'elle a achetée est un peu un lieu où se rencontrent beaucoup de missionnaires. Cette même maison de Lorette, elle est aussi le lieu très dynamique d'où tout part en ce qui concerne le rosaire vivant dont le succès est mondial. Et c'est de là que partent les cartons, les chapelets, etc. Je ne vous redis pas tout ça. Et donc, on a là 10 belles années que Pauline vit à Lorette, avec les filles qu'elle a rassemblées, qu'on appelle les filles de Marie. Et elle réfléchit toujours à cette question ouvrière. Elle fait avancer sa réflexion. Tout à l'heure, je vous citais un peu son programme. Elle a une nouvelle idée, elle regarde un petit peu ce qui se passe et elle se rend compte, par exemple, que de plus en plus, il y a des grosses entreprises et que les ouvriers, c'est plus des ouvriers dans l'artisanat, il y en a encore à Lyon, hein, bon. Mais il y a aussi des entreprises importantes. Et elle dit la plaie sociale dont souffre la France, c'est l'agglomération des ouvriers. Et elle se dit, après tout, il faut en profiter. Ils sont ensemble. Est-ce que le fait qu'ils sont ensemble pourrait pas être pour eux un moyen de salut? On retrouve bien Pauline là, avec son goût pour les solidarités et les interdépendances. Et elle se dit, mais si, dans la mesure où ils sont ensemble, ils pouvaient travailler ensemble, eux-mêmes, à se relever, et puis que quelques-uns le fassent, et puis que ça fasse boule de neige. Vous voyez, elle a là cette idée, une idée qui est très précoce, parce que d'autres vont la ressaisir et vont la découvrir après, mais que la classe ouvrière ne peut trouver de solution à ses problèmes que par elle-même. Ce sont les prémices d'une idée qui va être développée par le pape Léon XIII dans la toute première encyclique sociale en 1891. Je vous rappelle qu'on est dans les années 1830-1840. Et donc Léon XIII, dans la première encyclique sociale Rerum Novarum, va développer cette idée que la classe ouvrière ne peut s'en sortir que par elle-même. Et donc voilà, Pauline qui a ses idées et qui cherche ce qu'elle peut faire, avec toujours l'idée de mettre en route des petits groupes, hein, comme les dizaines de la propagation de la foi, les quinzaines du rosaire. Elle se dit, comment je pourrais faire ça avec les ouvriers ? Alors, elle cherche et elle a une première idée qui serait ce qu'elle appelait la banque du ciel. En fait, c'était l'idée d'une caisse de prêts gratuits pour des œuvres missionnaires et sociales. Alors, tout un système que je ne vais pas développer ici, on n'a pas le temps, puis c'est inutile parce qu'en plus, elle ne va pas le faire. Mais une idée donc assez simple et ingénieuse qu'elle ne va pas faire et qu'elle ne va pas mettre en route parce qu'elle a une autre idée qui lui paraît plus prometteuse et dont elle va trouver les moyens de la réalisation. C'est celle de ce qu'elle appelle l'usine chrétienne. Alors, une usine chrétienne, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, l'usine chrétienne, elle est dans l'idée de Pauline, un cadre de travail et de vie familiale. Et un jour, l'opportunité se présente, on lui propose une usine, ce sont des hauts fourneaux, dans le Var, à Rustrel. Apparemment, tout est là pour réaliser son projet. On est dans un cadre au pied d'une petite montagne. Au sommet de la montagne, il y a même été construit une chapelle qui s'appelle Notre-Dame des Anges. Et Pauline va donner à son projet le nom de Notre-Dame des Anges. Il y a de la matière première, du minerai de fer. Il y a des sources d'énergie, du bois, etc. Il y a de l'outillage. Il y a des bâtiments. Et dans ces bâtiments, on peut non seulement installer l'usine, le travail, etc. Mais on peut construire des logements pour les ouvriers, on peut aménager une école, et puis je viens de vous parler de la chapelle. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Donc, vous voyez Pauline qui se met à réfléchir à partir de cela sur ce qu'elle pourrait faire. Apparemment, ça irait très bien. L'usine serait donc un asile pour les ouvriers qui ont conservé la foi. C'est l'idée au point de départ de rassembler des ouvriers qui rentrent dans son projet, mais qui n'ont pas de travail et qui seraient prêts à y entrer. Ils seraient des fondateurs, en quelque sorte. Et puis, on adjoindrait au projet des religieux, des religieuses, par exemple, qui feraient l'école. Et donc, c'est un peu l'idée d'une espèce de séminaire pour des apôtres travailleurs et qui pourraient après retrouver, eux, un beau chemin et y entraîner leurs frères. Alors, vous sentez bien que c'est un projet qu'on pourrait plus avoir aujourd'hui et qui nous déroute sans doute, mais c'est quand même intéressant. Quand on regarde bien ce projet, on a quelque chose de l'idée qui va être développée au XXe siècle par l'abbé Joseph Cardagne, par exemple, qui va être l'inventeur de la JOC, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Pauline, elle a cette idée-là à travers son idée d'usine chrétienne. Donc, elle se trouve devant l'idée, on lui propose cette usine et tout devrait aller bien. Sauf que l'usine lui est proposée par deux personnages dont Pauline n'a aucune raison de se méfier, sauf qu'en fait, elle va découvrir rapidement à ses dépens qu'il s'agit de deux escrocs. Alors, deux personnages, le premier, il s'appelle, je vous donne leur nom parce que je vais en parler un tout petit peu longuement. Le premier s'appelle Jean-Pierre Alioux. Jean-Pierre Alioux, on dirait aujourd'hui que c'est quelqu'un de bien sous tout rapport. Il est banquier à Grenoble, il est même le banquier de confiance de Pauline. Il est très investi dans la propagation de la foi et dans le rosaire vivant. Pauline correspond régulièrement avec lui, elle l'appelle le bon et digne serviteur de Marie. Donc vous voyez, elle a une confiance totale, une confiance que n'ébranle pas le fait que ce monsieur, ce banquier, fait faillite en 1841. Mais Pauline, elle se dit, bon, il a des gros soucis, il a des misères, il faut l'aider, c'est une âme à consoler. Et elle cherche à l'aider. Et pour l'aider, elle va l'accueillir à Lyon, dans sa maison de... Alors, elle n'accueille pas Jean-Pierre Alioux dans la maison, parce que la maison, il n'y a que des femmes qui logent, mais elle accueille des membres de sa famille, son épouse, sa fille, etc. Et lui, Monsieur Alioux, vient régulièrement donner tous les petits services qu'il peut rendre à ces dames qui sont, et ses filles qui sont installées à Lorette. Alors, quand elle lui dit « Mais comment vous pouvez vous en sortir ?», Jean-Pierre Alioux lui dit « Oh, vous inquiétez pas, j'ai un ami dans le Midi qui est très riche et qui est disposé à tout payer. » Cet ami s'appelle Gustave Père. Cet ami dit qu'il est maître de forge. En fait, il est rien du tout. Il voudrait être maître de forge, mais et il a repéré le bien de Rustrel dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, il n'a pas de fortune, il n'a pas d'expérience. Lui aussi a fait faillite. Et en plus, ce que Alioux ne dit pas à Pauline, il est en prison parce qu'il a été arrêté pour une comptabilité irrégulière. Alors ça, Alioux ne le dit pas à Pauline. Pauline, elle sait seulement que ce monsieur existe et qu'il pourrait venir à leur secours, au secours de son ami. Mais au bout d'un moment, elle dit, mais enfin, quoi, pourquoi il ne vient pas, pourquoi? Alors du coup, Alioux, il est quand même obligé à un moment de lui dire ce qu'il appelle la vérité. Donc elle lui dit qu'il est en prison, mais Il présente les choses en disant que, en fait, il est une victime d'une machination contre lui, qu'il est coupable de rien, qu'il est victime d'injustice. Et comme Pauline a toute confiance dans ce monsieur Alioux, elle commence à s'intéresser au cas de monsieur Père. Et elle se dit qu'après tout, il faut qu'elle l'aide, puisque lui pourrait venir aider son ami Alioux. En fait, on a là deux personnages qui vont se présenter comme des victimes irréprochables, qui sont en fait des escrocs et qui vont exploiter la générosité, la naïveté peut-être de Pauline, hein, et qui vont la ruiner complètement. Alors, vous voyez, Alioux profite, hein, de son statut. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un zélateur du rosaire vivant, de la propagation de la foi. Il dit qu'il connaît Pauline, il met tout en avant. Il dit que Monsieur Père est quelqu'un d'absolument extraordinaire et qu'en plus, si on peut le libérer de prison, il faut verser une caution, eh bien, il ira au secours de tout le monde et que ses richesses pourront être exploitées non seulement pour venir au secours des problèmes d'Alioux, mais aussi au service de la religion. Alors, Pauline ne se méfie pas, sauf que malgré tout, comme elle ne connaît pas le monsieur Père et qu'elle n'est pas si sotte que ça, elle demande quand même à un religieux de ses connaissances, qui connaît Père, ce qu'il pense de la situation. Et le religieux lui écrit: l'intimité qui existe entre lui et moi me met en état de vous en parler de la manière la plus avantageuse. Il a paru sans crainte devant les tribunaux parce que le seul reproche qu'on pût lui faire était d'avoir trop bon cœur. Donc, si ce père dit ça à Pauline, plus de raison de s'inquiéter. Pauline verse sa caution pour qu'il sorte de prison. Le monsieur vient à Lorette et il choisit de venir à Lorette, ou plus exactement à la maison de Nazareth, qui est au sommet de la colline de Fourvière, où Pauline, qui appartient à la famille de Pauline et où Pauline va souvent se reposer quand elle va prier à Fourvière. Il choisit de venir et de rencontrer Pauline pour la première fois le 15 août 1845 avec Monsieur Alioux. C'est pas innocent. Il utilise et il va utiliser, c'est sa méthode, il va tout le temps utiliser la piété, la dévotion. Et il met en avant le fait qu'on est le 15 août. Et Pauline, qui le voit arriver, dit comme c'est admirable, comme la Sainte Vierge protège les siens. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, il va installer la famille Alioux à Nazareth, on va louer la maison, il vient tout le temps. Pauline, en quelque sorte, il va mettre Pauline sous son emprise, il va l'empêcher d'aller demander des conseils ailleurs, il simule la piété. Il y a une des amies de Pauline qui s'en rend compte de ça. Pauline, elle se rend compte de rien. Rappelez-vous, je crois que je vous l'ai dit, Pauline était myope, et très, très myope. Et elle doit avoir un peu de mal à lire sur les visages et elle ne se rend pas compte à quel point il simule. Il utilise un langage qui est conforme au projet de Pauline, il lui fait en fait une profonde impression. Et lorsque il se présente avec le projet de Rustrel dont Pauline rêve depuis plus de 10 ans, eh bien, elle dit, elle le dira plus tard, il fallait moins que cela pour me faire battre le cœur. Ce fut pour moi comme le regard d'Ève sur la pomme. Elle écrit ça que plus tard. Entre-temps, elle va tomber dans le piège qui lui est tendu. Elle va tomber d'autant plus dedans que Pauline, à ce moment-là, est toute seule. Je vous l'ai présentée dans sa famille, mais la famille n'a pas disparu complètement. Mais ses deux sœurs sont décédées. Son beau-frère Victor Charton vient de décéder aussi. Son frère Paul est malade. Il mourra en 1849, quelque part. Il lui reste plus que sa belle-sœur qui s'est jamais trop intéressée, Félicité, qui s'est jamais trop intéressée au projet de Pauline. Et puis des neveux et nièces qui sont jeunes et puis qui ont leur vie et leur histoire. Et donc Pauline est seule. Elle n'a plus non plus le chanoine Bétan, qui était le directeur du rosaire, qui est mort en 1843 et avec qui elle avait fait beaucoup de choses. Et le nouveau directeur du rosaire ne s'occupe pas des autres projets de Pauline. Et donc elle tombe sous le coup de ce complot que manigancent les deux amis, qui utilise encore une fois la piété le 8 septembre. Le 8 septembre, c'est le jour de la fête de la Nativité de la Vierge. Eh bien, le 8 septembre, ils font tout un montage qui amène Pauline à créer une société dans laquelle elle met 700 000 francs. L'usine qu'elle doit acheter coûte 352 000 francs. Ça vous donne un petit peu une idée, hein, de la somme qu'elle met. Donc, elle met ses 700 000 francs pour acheter l'usine. En fait, ils vont ni payer l'usine. Et on ne saura jamais ce qu'ils ont fait de l'autre moitié de la somme. Pauline ne le saura pas. Alors, Au début, ça marche. Pauline peut croire que ça marche, que père, par exemple, est gérant de la société, des ouvriers arrivent, le travail est mis en route, une école s'installe, donc l'école, la prière, la chapelle, etc. Tout ça fonctionne pendant quelques semaines et les premiers résultats peuvent laisser espérer que tout va aller bien. Sauf que en mai 1846, donc vous voyez, l'achat de l'usine, c'est en septembre 45, il n'a pas fallu longtemps, Gustave Père est de nouveau emprisonné. Pour il est rattrapé par des affaires anciennes et il est de nouveau emprisonné. Alors le premier réflexe de Pauline, c'est d'aller à son secours, mais elle comprend très vite que en fait elle a été trompée, elle a été escroquée, et de fait à ce moment-là, les deux bons hommes, père et Aliou, vont jeter le masque, vont devenir absolument odieux avec elle, et donc elle les fait chasser de Nazareth et elle engage contre eux une action judiciaire. Donc vous voyez là la situation de Pauline qui est absolument dramatique à ce moment-là. Elle comprend tout ce qui est arrivé, mais elle espère encore pouvoir s'en sortir. Alors elle va se retrouver dans plein d'actions judiciaires et des choses très compliquées. Je veux simplement, avant d'aller plus loin, signaler ici que au moment où tout cela se met en route, Pauline, qui sait que si elle a mis de l'argent dans l'affaire, et il a fallu continuer à mettre de l'argent, d'ailleurs père n'a pas arrêté de lui en demander de l'argent, et donc des gens ont souscrit des actions pour cette usine, et ils ont souscrit des actions parce que c'était Pauline, et sur le nom de Pauline, et elle le sait ça. Et donc, comme elle sait que son nom a été exploité, elle estime que la loyauté et l'honneur lui dictent, lui obligent à rembourser. Et donc, alors qu'elle n'y est pas obligée, elle n'a commis aucune faute et juridiquement, elle n'est coupable de rien. Hein, mais alors qu'on dit quelquefois qu'elle a fait faillite et elle sera appelée la faillite. C'est pas vrai. Elle n'est coupable d'absolument rien. Elle a simplement perdu tout l'argent qu'elle avait mis et que d'autres ont mis sur son nom. Et donc, en novembre 1846, elle s'engage solennellement, sur l'honneur, à rembourser intégralement ses créanciers. Je vous répète, elle n'y était pas obligée, mais elle s'y engage et il faut reconnaître que c'est un engagement qui va la perdre parce qu'elle n'arrivera pas à trouver l'argent pour être remboursée. Voilà donc la catastrophe pour Pauline. La catastrophe, sauf que l'usine, on a vu, elle avait commencé à marcher, elle peut continuer à marcher, elle est viable, et Pauline, elle aurait pu dire, bon, bah, je laisse tomber, je rembourse les dettes que je peux rembourser, puis j'arrête là les frais, mais elle a toujours son projet, donc elle relance l'affaire. Elle a d'autres personnes qui vont essayer de l'aider. Bon, là, c'est plus des escrocs, mais manifestement, ce sont des gens qui sont pas compétents. Et finalement, le projet de relancer l'usine ne va pas marcher. Et l'usine va être vendue dans des très mauvaises conditions à folle enchère en 1852. Pauline endossant tout le passif, la perte est absolument considérable pour elle. Et à ce moment-là, elle n'a plus que des dettes et sa maison. Je précise quand même qu'elle est toujours propriétaire de la maison de Laurette. Alors, je reviendrai dans la toute dernière émission au mois de juin sur les conséquences de tout cela, sur la vie de Pauline et la manière dont elle va traverser dans la foi toute cette épreuve. Je termine simplement aujourd'hui au niveau d'un point de vue factuel, si vous voulez bien. Hein. Vous voyez que pour Pauline, c'est la grosse déception. D'abord l'échec de son projet. Ensuite, elle va être calomniée, critiquée, méprisée, moquée. Une femme qui s'occupe d'affaires, qu'est-ce que c'est que ça? Elle doit subir quantité de procès. Alors en général, elle les gagne, ces procès, mais ses adversaires ne sont pas solvables, donc de toute façon, ça ne lui apporte rien. Alors, elle ne se plaint pas, il n'y a que sa correspondance qui laisse passer un peu l'idée de ce qu'elle vit. Elle dit par exemple au curé d'Ars, ce qu'elle connaît bien, « Je suis toujours étendue tout entière sur la croix, je combats avec peine. » Donc, vous voyez un petit peu la misère hein, qui est la sienne hein, à ce moment-là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle voulait rembourser ses dettes. Elle veut les rembourser, mais le contexte est difficile. D'abord, en 1848, il y a tous les événements révolutionnaires qui rendent les choses difficiles. Alors, comme elle n'a pas d'argent, elle va se lancer dans une campagne de dons. À partir de 1849, elle va sillonner la France avec des amis. Elle ne sera pas toute seule. Elle sillonne toute la France pour faire un appel aux dons. Et un évêque qu'elle connaît bien, qu'elle a connu à Lyon, qui est devenu évêque de La Rochelle, qui va même devenir cardinal, aller à Rome, il lui dit, non seulement il lui suggère l'idée, mais il lui donne un ordre. Il lui dit, non, Pauline, vous devez, vous êtes la fondatrice de deux grandes œuvres, la propagation de la foi et le rosaire vivant. Il y a là des quantités de gens qui sont prêts à vous aider. Ils n'ont pas besoin de donner beaucoup d'argent pour que vous puissiez rembourser vos dettes. Eh bien, faites appel à eux, lancez une souscription. Et donc, ça paraît naturel et en fait, ça aurait pu marcher. Sauf que Pauline va se heurter à l'opposition absolue du tout-puissant Conseil de la propagation de la foi. Alors, vous vous souvenez, je vous avais dit que Pauline avait abandonné un peu la propagation de la foi, les choses la dépassaient. On a oublié, même il y a des gens qui n'ont jamais su qu'elle était fondatrice. Et quand elle se présente en disant qu'elle est la fondatrice et qu'elle appelle au secours, on lui dit « mais usurpatrice ». Vous êtes là, vous êtes lancé dans des aventures industrielles que vous n'auriez jamais dû faire, vous usurpez un titre, il n'y est pas question. Et non seulement elle ne pourra pas s'adresser aux associés de la propagation de la foi, mais en plus souvent ces associés sont les mêmes que les associés du rosaire vivant, et que lorsque des groupes du rosaire vivant vont se mobiliser en leur faveur dans les diocèses, en sa faveur dans les diocèses, eh bien on va voir arriver des gens de la propagation de la foi qui vont dire non, non, surtout pas. Et donc, on va se retrouver avec Pauline à peu près seule, ayant un mal fou, je vous l'ai dit tout à l'heure, moquée, etc. Alors, elle n'a pas changé, notre Pauline. Elle a toujours des idées et sans idée à l'heure. Et là, elle en a une nouvelle. Et pour ceux qui connaissent un peu Lyon, la propriété de Lorette, elle est sur les pentes de la colline de Fourvière. Et au sommet, donc, il y a une chapelle, une petite église. À ce moment-là, il y a un gros projet de faire une basilique, celle qui est construite actuellement. Et Pauline, à ce moment-là, se dit, mais après tout, avec... Les gens trouvent que c'est long de faire tout le tour de la colline pour monter là-haut. On pourrait passer à travers mon jardin. Et donc, elle a l'idée de créer un chemin à péage à travers son jardin pour aller à la colline de Fourvière. Ça pourrait marcher. Et de fait, ça a marché. Et ça lui a fait rapporter un certain nombre d'argent. Et en faisant le calcul, ça aurait pu vraiment marcher. Sauf que la commission de Fourvière, qui a des gros projets pour la colline, trouve que sa maison, tout ça c'est gênant, voudrait racheter la maison de Pauline, a le même projet, fait un chemin concurrent, démolit même un mur du jardin de Pauline pour faire passer son propre chemin, étanche fille avec la propagation de la foi. On a une histoire un petit peu compliquée là, qu'on n'a pas le temps de raconter dans les détails, mais elle va empêcher en quelque sorte tous les projets d'aboutir. Et on a à ce moment-là une lutte absolument sans fin entre les membres de la propagation de la foi, de la commission Fourvière, tous des gens très bien, hein, quelque part. La commission de Fourvière, elle est portée par le cardinal de Lyon, que Pauline connaît et qui apprécie Pauline, mais il y a une forme d'incompréhension qui se joue. En 1853, la vie de Pauline, la vie à Lorette est devenue absolument impossible. Ils n'ont plus de quoi se chauffer, ils ont à peine de quoi se nourrir. Et le curé de la paroisse fait inscrire Pauline au registre des indigents de la ville. Ça vous dit un petit peu ce qui lui arrive. Les filles de Marie, pour la plupart, sont parties. Donc, on est dans la catastrophe absolue qui va durer jusqu'à la fin de la vie de Pauline. Alors, ce que nous verrons, patience, parce que je pense que la prochaine fois que l'on se voit, ce sera au mois de juin, nous verrons que Pauline va vivre cette période donc très douloureuse, très isolée, avec sa famille qui essaie, elle a un neveu qui va essayer un petit peu de venir à son secours, mais qui ne va pas y arriver, qui va d'ailleurs tomber malade. Bon, bref, elle vit une période qui est très, très difficile, sans se laisser abattre. Et se réfugiant dans la croix, elle le dit, je vous l'ai dit tout à l'heure dans ce qu'elle disait au curé d'Ars, et elle mourra donc en 1862 dans la foi, l'espérance, avec toujours le souci de donner autour d'elle tout l'amour qu'elle pouvait donner. Mais effectivement, une fin de vie très difficile, et elle sera mal vue, critiquée, calomniée, je vous l'ai dit, et elle ne sera véritablement réhabilitée que quelques années après sa mort. Voilà pour cette catastrophe que je vous annonçais en commençant, hein, et qui va rendre très très douloureuse les 15 dernières années de Pauline, douloureuse mais vécue dans la foi, l'espérance et la charité. Je vous remercie.
Merci beaucoup Catherine Masson de nous avoir parlé de Pauline Jaricot. Nous attendons avec impatience la suite pour savoir comment...
Il y a du suspense aujourd'hui.
Oui, effectivement. En tout cas, nous aurons le plaisir eh bien, de vous retrouver pour une prochaine émission. Merci beaucoup Catherine Masson.
Je vous en prie, merci à vous.
Chers auditeurs, c'était l'émission Pauline Jaricot avec Catherine Masson. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.